si je sais, c'est Dieu qui fait ça. Quand l'épreuve est là, quand il faut marcher sur l'eau, moi je sais que Dieu me gardera. Dieu est là.
Ça va bien dans ce beau dimanche. Je cherche Amos. Est-ce que quelqu'un me peut trouver Amos? Il est tout coincé, Amos. Un tout petit coin. Amos chapitre 3, verset 7, s'il vous plaît. Il faut que je me rappelle que je tienne mon micro tout près de la bouche. J'oublie. Amos 3, non, pardon. Oui, 3, 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Vendredi soir, je vous parlais de Dieu qui donne beaucoup de choses. Et je vous disais que ce n'est que par son esprit que nous pouvons avoir connaissance de ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Je ne l'inventais pas, c'est écrit. C'est écrit, sentez et ressentez. Dans Jean 3,16, par exemple, on lit que Dieu a tant aimé le monde. Et mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas changé et qu'il n'a pas cessé d'aimer le monde. Alors évidemment, nous, il nous dit, n'aimez pas le monde. Bon, mais c'est tout autre chose. Aimer le monde comme Dieu l'aime, c'est avoir une angoisse. Parce que C'est souffrir pour que ces gens puissent être sauvés. C'est avoir un poids dans son cœur pour que ces gens puissent être sauvés. C'est pas seulement avoir un poids dans son cœur, mais c'est exprimer vraiment l'amour de Dieu dans ce monde pour que les gens puissent être sauvés. C'est prendre des risques aussi. Et Dieu est venu et il savait très bien ce qui allait se passer. Et nous aussi, il nous a envoyé et il nous a pas caché ce qui allait se passer. Ça va pas être facile. Il a dit, ils m'ont haï, vous haïront aussi. Mes frères et sœurs, nous sommes ces enfants dans le monde. Et il y a une raison pour ça. Et parce que notre Père nous aime, il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls dans cette condition mortelle qui est la nôtre, sans rien beaucoup de personnes pensent que voilà, il nous a donné la Bible, voilà, ça suffit. Non, 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 mes frères et sœurs. Il parle encore, il parle encore. Il donne encore ses directives, il nous donne encore des conseils. Il nous dit ce que nous devons faire orage. Tout à l'heure, j'étais en train de filmer Olivier qui était en train de chanter et je voyais dans l'écran notre vitrail hors âge. Peut-être que des gens ne savent pas ce que ça veut dire hors âge. Ben, je dis juste en vitesse, rapidement, que nous autres ici, nous croyons que le temps des nations s'est terminé en 1977. Le temps des nations, maintenant, on voit, c'est la mondialisation. À l'époque, on ne parlait pas trop de ça. Mais nous savons que la fin du temps des nations, c'est en réalité la fin du temps de l'Église de Jésus-Christ dans les nations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'Église de Jésus-Christ dans les nations depuis 1977. Ça veut dire que depuis 1977, nous sommes hors âge. Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Nous avons dépassé les sept âges de l'Église que Dieu avait fixés et nous sommes dans le temps de sa patience, c'est-à-dire hors âge. Vous savez que dans Apocalypse 2 et 3, il y a des prophéties qui sont données au sujet des sept âges de l'Église. Le premier, c'est Éphèse, avec l'influence de l'apôtre Paul. Ensuite, vous avez les autres âges. On arrive à la fin maintenant. Et là, maintenant, nous sommes hors âge. Mais Dieu n'a pas cessé de parler. Dieu n'a pas cessé de parler. Il parle encore. Et les enseignements que Dieu nous donne sont la sagesse. Il nous donne des directives. Il nous apprend. Et ce qu'il nous apprend, frères et sœurs, n'est jamais banal. Ça n'est pas ordinaire. Et je pourrais même dire que ça n'est jamais prévisible. C'est étonnant, toujours étonnant ce que Dieu dit. Dieu ne parle pas pour dire des banalités. Les enseignements que Dieu nous donne sont des enseignements, c'est la sagesse, sa sagesse, la sagesse d'un Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Et si nous sommes à l'écoute, et alors la Bible nous dit que si nous demeurons en lui et lui en nous, son esprit et notre esprit sont un seul esprit. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire que nous sommes mis au courant de ce qui va arriver. Nous sommes mis au courant, nous sommes tenus au courant de ce que nous avons à faire, de quelle est notre œuvre aujourd'hui. On ne va pas se mettre à construire l'arche de Noé. Il y a d'autres choses à faire. Jésus est en train de rétablir l'Évangile, il est en train de rétablir les choses qui avaient été dévorées autrefois, du temps à partir du moment où l'Église a commencé à devenir apostate. Il est en train de rétablir les choses et nous sommes entrés dans ce rétablissement. Et cela est difficile à comprendre parce que ça n'est pas dans notre culture. C'est quelque chose de nouveau, qui nous semble nouveau, qui est ancien, mais qui nous semble nouveau parce que c'est une parole de Dieu qui sort. Quand Jésus s'est présenté sur la terre, ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'était tellement annoncé dans les prophètes. Mais les gens ne l'ont pas vu, ne l'ont pas compris parce que c'était trop choquant, trop nouveau pour eux. Alors ils ne l'ont pas reçu. Et nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Ce qu'il nous donne est sacré. Et c'est pourquoi ces enfants peuvent le connaître, mais il dit, mais c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Par son Esprit, il parle à notre esprit. Et il s'adresse à nous par le moyen des prophètes, parce qu'il ne change pas. Beaucoup disent, ah, mais c'est par les docteurs, la parole de Dieu doit être expliquée par les docteurs. Non. Vous savez, depuis l'époque d'Adam, Dieu parle par l'intermédiaire d'oracles choisis. Enoch a été le premier. C'est le premier qui a écrit un livre, Enoch. Eh bien, son livre, il dérange tellement qu'ils l'ont caché. Le mot apocryphe veut dire tenu caché. Ils le tiennent caché. Heureusement, maintenant, Dieu le fait ressortir. Je lisais, vous savez que je lis de tout, et là, je suis en train de lire dans le livre de Mormon. Et dans le livre de Mormon, il parle, et Joseph Smith prophétise en disant que le livre de Mormon va apparaître en son temps. Ben, ça y est, il est apparu. Voilà, c'est spécial, n'est-ce pas? Et Dieu nous l'a confié. Et maintenant, chaque semaine, nous envoyons des livres, la parole cachée, c'est-à-dire ce livre de, pas de Mormon, mais d'Enoch. Nous envoyons le livre d'Enoch avec les commentaires que Dieu nous a révélés. Et c'est des choses profondes, ce sont des choses qui concernent notre temps, qui concernent notre époque, ce que nous avons à faire. Et depuis Adam, donc, c'est par l'intermédiaire de prophètes que Dieu parle. Enoch était le premier à écrire. Et il a choisi, Dieu a choisi des personnes chargées de révéler sa volonté, chargées de révéler ses conseils au peuple, mais aussi et en particulier aux siens. Aux siens. Si vous lisez la Bible, vous savez que les prophètes ont toujours été des pédagogues. Alors on dit, oui, non, c'est les docteurs qui... Non, c'est les prophètes qui, d'abord, la parole de Dieu vient aux prophètes. Je le répète, Jésus, quand il est venu dans ce monde, il n'a pas été se présenter aux docteurs, il s'est présenté à un prophète. Et le prophète a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte. Et lui, il était la parole faite chair. Et toujours, la parole vient aux prophètes. C'est comme ça. Et on n'y change rien. Et ils sont des pédagogues. Pédagogue, ça veut dire enseignant. Ça veut dire éducateur. Ça veut dire, si vous regardez bien la signification du mot dans le dictionnaire... Je ne sais pas si ça vient du latin, je n'ai pas regardé, mais en tout cas, ce sont des gens qui ont le don d'enseignement. Ils savent enseigner. Un prophète, c'est un pédagogue inspiré. C'est un témoin spécial de Jésus-Christ. Un prophète ne s'adresse pas seulement aux gens de son époque, mais il s'adresse aussi, longtemps après sa mort, il s'adresse encore aux gens. L'autre jour, je parlais avec un prophète africain, et il me parlait de frère Branham et il me disait, mais il est mort. Eh oui, Esaïe aussi. Oui, bon, voilà. Ézéchiel aussi, Daniel aussi. Alors, sous prétexte qu'ils sont morts, il ne faut pas lire, il ne faut pas s'intéresser à ce qu'ils ont dit. Quelle drôle d'idée ils ont. Quelle drôle d'idée. Bien sûr, il est mort. Et alors, la parole qu'il a donnée, surtout qu'il a donnée pour les temps jusqu'à la fin, là, ce sont des choses qui nous concernent. Et la voix des prophètes témoigne de la volonté du Père pour ses enfants en particulier. Notre époque, elle n'est pas différente des autres époques, mes frères et sœurs. Dieu n'aime pas moins les gens d'aujourd'hui que les gens des temps passés. C'est la même chose. C'est la même chose. Dieu parle encore aujourd'hui à ses enfants. Il ne se cache pas dans les cieux. Il parle comme autrefois par des prophètes. Vivant par des prophètes morts aussi, nous avons Enoch, nous avons plein, Isaïe, Ézéchiel, Daniel, tous ces Osée, Amos, Abdias, Jonas, enfin non, oui, si, quand même, bien sûr, mais enfin, on en a énormément de prophètes, il y a encore des prophètes vivants aujourd'hui, ils parlent par des prophètes vivants et aussi par les écrits des prophètes qui sont morts maintenant. Et maintenant, il y a une nouvelle technologie, on peut aussi trouver des paroles de prophètes sur DVD, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Maintenant, la parole de Dieu, elle est sur plein de supports. Alors, il faut savoir qu'une grande partie de ce que le Seigneur dit par ses prophètes a pour but de nous éviter la douleur en tant que personne, mais aussi en tant que société. En tant que société. Quand Dieu parle, c'est pour instruire, c'est pour inspirer, c'est pour affiner la connaissance des siens, et c'est pour les avertir. Et tout au long de la Bible, tout au long de l'histoire, on voit que quand quelqu'un ou un peuple veut ignorer les instructions du Père, eh bien, des épreuves lui arrivent, et si c'est une société, ben, et même aussi des tourments, et on voit même des peuples entiers qui sont pris dans des tourments, et c'est pas seulement pour Israël, c'est aussi maintenant, depuis les sept âges de l'Église, c'est aussi dans les nations. Quand une nation refuse d'écouter ce que Dieu a à dire, eh bien, cette nation s'appauvrit. Regardez ce qui s'est passé en France pendant la Réforme. C'est un pays qui a été appauvri parce qu'ils ont refusé ce que Dieu disait par ses serviteurs au moment même. Alors, ils ont été appauvris. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tué beaucoup de gens qui étaient des véritables, authentiques enfants de Dieu, et Dieu ne peut pas laisser ça impuni. Et puis aussi, beaucoup de chrétiens protestants ont quitté la France. Ils ont quitté avec leur fortune, parce que la plupart des protestants sont encore des gens intelligents et fortunés. Voilà, c'est quand même triste, n'est-ce pas ? Et donc, ça arrive pour les personnes, c'est-à-dire à nous, si nous nous refusons d'écouter ce que Dieu dit. Mais ça peut arriver aussi à l'échelle nationale. C'est pourquoi nous sommes le sel de la terre en ce jour où nous devons aller voter. Je sais qu'il y en a déjà plein chez nous qui ont été votés. C'est bien, je crois même que Philippe a été le deuxième de la commune à aller voter ce matin. C'est bien, bravo. Ah, la prochaine fois, si on est encore là, il faudra être le premier. Bon, alors Dieu plaide en faveur des siens, par l'intermédiaire des prophètes. Il plaide. Et mes frères et sœurs, nous qui voulons le meilleur pour nos enfants, nous savons bien ce que c'est. Dieu, lui, de même, il veut aussi le meilleur pour nous qui sommes nés de lui. Nous sommes ses enfants. C'est pourquoi le peuple de Dieu se réunit pour écouter ce que Dieu a à dire, pas simplement pour dire, voilà, on est venu, puis on a chanté, puis c'était bien, puis voilà, puis comme disait Fernand Reynaud, Le canard à l'orange, on pense au canard à l'orange qu'on va manger en rentrant. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Vous savez, votre sort personnel, votre sort familial, notre sort communautaire, le sort de la France, particulièrement aujourd'hui, celui du monde, eh bien, dépend de la façon d'écouter et de tenir compte de ce que Dieu révèle à ses enfants aujourd'hui. C'est vrai. Et gloire à Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui écoutent, qui sont soucieux d'écouter ce que Dieu a à dire. Dans la Bible, on trouve la pensée de Dieu, et aujourd'hui, Dieu révèle des choses qui étaient scellées dans la Bible. Elles sont écrites, mais elles sont scellées, c'est-à-dire, par l'Esprit, nous ne pouvions pas les comprendre autrefois. Vous avez cela dans Daniel, vous avez cela dans l'Apocalypse, des choses qui étaient scellées, elles doivent être... Les sceaux doivent être cassés à une certaine époque. Eh bien, nous sommes rentrés dans une époque où des sceaux ont été brisés. Et maintenant, nous pouvons, depuis des millénaires, c'était scellé comme ça. Les gens lisaient, mais ils ne comprenaient pas. Ou ils interprétaient. Mais maintenant, ce n'est plus pareil. Par exemple, Jean à Patmos, lui-même ne pouvait pas comprendre la prophétie qu'il écrivait. Il ne comprenait rien du tout de ce qu'il écrivait. Et pour comprendre... Eh bien, aujourd'hui, alors que nous sommes en train de vivre les choses qui sont écrites, eh bien, Dieu envoie ses serviteurs, les prophètes, et il révèle ce que l'apôtre Jean a dit, et aussi ce que Daniel a dit, et ce que Enoch a dit, et ce que d'autres ont dit autrefois, et tout ça se met ensemble, et nous avons maintenant une vue presque parfaite, parce que Dieu a encore à dire des choses, mais disons que pour l'heure, pour le moment, eh bien, nous voyons clair, nous savons ce que nous avons à faire. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 46, nous lisons, c'était l'histoire de deux hommes. Il y en avait un qui avait rencontré Jésus, puis l'autre, il ne l'avait pas rencontré. Et celui qui avait rencontré, il dit, ben, viens et vois. Et c'est formidable, cette petite phrase. Viens et vois. Ça, c'était à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, les enfants de Dieu pouvaient aller et voir. Dieu nous invite-t-il toujours à venir et à voir? Bien sûr, mes frères et sœurs. Vous pouvez venir... Et voir. Venez et voyez avec votre cœur. Parce que si vous cherchez d'un cœur sincère, si vous avez eu des intentions réelles, si vous avez le regard fixé sur Jésus, alors il vous en manifestera la vérité. Il vous manifestera la vérité révélée par sa parole qui est rétablie aujourd'hui, dont les sceaux ont été brisés aujourd'hui, et tout ça par le pouvoir du Saint-Esprit. Mais encore faut-il ne pas s'accrocher à nous. Tradition. Vous savez, je voyage beaucoup et je vois que ce qui retient, par exemple, l'Afrique, puisque c'est surtout là-bas que je vais, ce qui retient l'Afrique, ils connaissent un réveil extraordinaire. Il y a un réveil extraordinaire. Vous allez en Afrique, mais dans toutes les villes, vous ne pouvez pas marcher dans les rues sans voir une ou deux églises. N'est-ce pas? C'est la vérité. Mais ce qui les retient, c'est la culture. C'est leur tradition, ils ont encore des trucs, il faut éliminer. Et nous, alors nous aussi, parce qu'on oublie, mais on a des tas de trucs, des tas de machins qui sont faux, et il faut qu'on élimine, il faut qu'on revienne à la culture de l'évangile. Ah, c'est bien. Vous savez, il y a quelqu'un qui a écrit sur Internet dernièrement une petite phrase, il a écrit « On est des très bons juges quand... On est des très bons avocats quant à nos propres fautes, on est des très bons juges quant aux fautes des autres. » Et c'est vrai, on est tous comme ça. Alors on dira, les Africains, s'ils n'avaient pas cette culture, s'ils n'avaient pas ces trucs, ces traditions, mais ça serait extraordinaire. Et nous alors? Ben oui, nous aussi, il y a beaucoup de choses qu'on doit changer, mais on n'en a même pas conscience. Il faut que ce soit les Africains qui viennent nous dire qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez nous, et puis nous, on va leur dire ce qui ne va pas chez eux, puis comme ça, on peut échanger et on peut évoluer. Parce que nous-mêmes, on ne voit pas clairement, hein. À moins que ce soit le Saint-Esprit qui nous éclaire. Et quand le Saint-Esprit nous éclaire, c'est difficile quand on est ancré dans des trucs. C'est difficile. Ça n'a jamais été facile d'obéir à un prophète. Ça n'a jamais été facile de croire à un prophète. Jamais, jamais, jamais. Ça se saurait si c'était facile. Ce que Dieu veut, c'est parler aujourd'hui. Il désire que ses enfants écoutent sa voix et qu'ils y prêtent attention. Alors Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Rappelez notre frère Richard qui était venu ici, comment il avait... Parler, mais c'était parler comme un prophète, cet homme, il ne savait rien de notre situation, il a parlé comme ça. Vous vous rappelez de ce Canadien qui était venu et qui a eu toute la nuit, et là j'ai reçu un mail ce matin de Patrick Nomertin, et Dieu lui a montré que nous sommes en train de combattre. Et il nous a vus en train de tirer sur une corde, et des esprits, l'ennemi derrière qui tirait aussi, mais avec des efforts puissants soutenus par le Saint-Esprit, il voyait que nous sommes vainqueurs. C'est extraordinaire, c'est bon, voilà, c'est bien, ça fait plaisir. Dieu parle comme il veut. Hein. Je ne veux pas vous raconter de nouveau l'histoire de l'ânesse, mais Dieu peut parler par un âne comme moi. Hein. Faut faire attention quand il parle. Pourquoi les gens d'autrefois n'écoutaient pas les prophètes? Ben justement, parce qu'ils s'imaginaient que ceux qu'ils avaient avec eux, là devant eux, ne ressemblait pas à ceux d'autrefois. Et pour nous, alors là, c'est terrible, parce que nous, on a une idée hollywoodienne des prophètes. Pour nous, un prophète, ça va être un barbu, un peu dans le genre Charlton Heston. Non, c'est pas ça que vous avez dans la tête, vous, hein, qui arrive, qui a toujours les mains comme ça, et le regard illuminé. Et ben, non, pas du tout. Par exemple, ce fameux Moïse, le vrai Moïse, hein, je ne parle pas de Charlton Heston, le vrai Moïse, quand il était sur la terre, ben, vous savez, la plupart des gens doutaient de lui, ils avaient des problèmes. Bon, c'était terrible, il devait y avoir des miracles époustouflants pour que finalement ils y croient un petit peu. Puis même, ça ne durait pas longtemps, de nouveau, ils se rebellaient de nouveau. Mais aujourd'hui, vous avez vu, vous demandez à un juif Moïse, ah, Moïse, bien sûr, il ne dérange plus personne, il est mort. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. Il dérange encore quand on lit, mais le livre, on peut le fermer, pouf, et voilà, il est mort. Les gens, ils cherchent une espèce de perfection, et on est tous comme ça, quelque chose qui frappe le regard, quelque chose qui frappe, qui touche les émotions. Ils sont un peu comme cette femme qui avait un goût en particulier pour les orchidées, qui voulait absolument n'être entourée que d'orchidées. Elle disait, il n'y a que les orchidées qui sont des vraies fleurs, des belles fleurs. Mais voilà, il n'y en avait pas dans sa région, et pas dans son jardin en tout cas. Elle n'avait pas tellement les moyens de s'en payer beaucoup. Mais comme elle était tellement, on dit omnibulée ou omnubilée, je ne sais plus, omnubilée par les orchidées, elle ne savait pas voir les milliers de myosotis qui entouraient sa maison et qui étaient magnifiques. C'est ce qu'un myosotis, une toute petite fleur de rien du tout. Et pourtant, c'était magnifique, mais elle ne les voyait pas parce qu'elle avait une idée. Voilà, ça, c'est comme ça, ça va être comme ça. Ça, c'est vraiment une fleur. Ben oui, mais le myosotis aussi. Votre goût de la perfection, votre idée de comment Dieu parle, ou de ce qu'il devrait dire aujourd'hui peut-être aussi, est-ce que c'est ça qui vous empêche de voir la bénédiction que vous avez déjà? Ça, c'est terrible. Quelles sont les minuscules myosotis que vous négligez dans votre vie? C'est ça qu'il faut voir. Vous savez, comme je disais, je voyage pas mal, et je vois que bon, c'est pas seulement le caractère des gens qui doit changer, c'est aussi, nous sommes dans un monde mauvais, et la culture dans les pays, ça peut empêcher d'entendre des chuchotements de l'esprit qui parle, qui se manifeste, parce que Dieu parle et se manifeste comme il veut. Et ce qu'il veut, Dieu veut que nous adoptions la culture de l'évangile. C'est pas un truc américain. Quand vous lisez les critiques, ils vous disent oui, les Américains vont en Afrique et ils, soi-disant pour prêcher l'évangile, mais ce qu'ils veulent, c'est américaniser. Hein, voilà, maintenant tout le monde va s'habiller comme les Américains, parce que tout le monde va manger comme les Américains. Et tout. Bon, ben c'est vrai que ça, quand on va en Afrique et qu'on est avec les Africains, et je me rappelle, j'étais chez Alain Wilmo, un jour j'ai dit, bon, écoutez, moi j'en avais un petit peu marre des raviolis Buitoni, puis je ne pouvais pas manger le thon. J'ai dit, aujourd'hui je vais vous faire des Big Mac. Oh là là, qu'est-ce que c'est les Big Mac? Alors on est allé dans une épicerie, il y a un Libanais qui tient une épicerie là-bas, et j'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour faire des Big Mac. Mais maintenant ils adorent les Big Mac. Chaque fois que j'y vais, il faut que je fasse des Big Mac. Bon, est-ce que j'ai apporté la culture américaine? Mais non, c'est pas de cette culture-là dont on parle, c'est pas de ça dont on parle. Mais c'est vrai qu'il y a des conséquences un petit peu bizarres, bébêtes, parce que nous apportons la culture de l'évangile, nous apportons aussi nos trucs à nous. Bon, moi j'ai apporté des Big Mac, quelle honte. Non, c'est quand même pas trop mauvais quand c'est bien fait. Et je remercie au passage notre frère Stéphane qui nous en a fait des merveilleux. Mercredi soir, on s'est régalé. C'était très bien. C'était même meilleur qu'au McDo, surtout. Très, 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 très meilleur. Bon, donc ce n'est pas que notre caractère qu'on doit changer. C'est aussi des choses dans notre culture. La culture de l'évangile, c'est un ensemble d'idéaux, d'attentes et de pratiques qui sont communes à tous les enfants de Dieu. à tous les enfants de Dieu. C'est ça la culture de l'évangile. Quand vous voyez la culture, par exemple, chez les gitans, par exemple, vous allez, moi je vais souvent chez les gitans avec la Michou, on y va toutes les 2-3 semaines voir Violette et Raphaël, mais chez eux, il n'y a rien à faire. Une femme, c'est un truc, quoi. C'est, voilà, la femme, elle a juste le droit de même pas d'être belle, quoi. Elle doit se taire, puis voilà, passer à serpillière, faire la bouffe, torcher les gamins. Mais une femme qui elle n'a pas le droit, elle a le droit de rien faire, alors que Jésus dit, mais qu'il n'y a dans le Saint-Esprit ni homme ni femme. Mais c'est une culture, et c'est dommage, parce qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé chez les gitans. Je crois que c'est le dernier grand réveil qu'on a eu en Europe, c'est ce qui s'est passé chez les gitans. Mais leur culture a tout bouffé. Maintenant, c'est devenu une tradition, un machin. Qu'est-ce que c'est dommage. Il faut que nous fassions attention aussi, nous autres, frères et sœurs, faire attention. La communauté de Jérusalem, ils étaient un seul cœur, une seule âme. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils avaient cette culture de l'évangile, c'est-à-dire les mêmes attentes, les mêmes pratiques qui sont communes à tous les enfants de Dieu. Ils avaient la culture de l'évangile. Et cette culture orientait chaque membre dans sa façon de vivre et surtout d'éduquer les enfants. Ça, c'est quelque chose d'important, l'éducation de nos enfants. Jacques disait que nous avons à assumer la responsabilité de nous préserver des souillures du monde, mais il laisse aussi comprendre que nous devons sécuriser nos enfants, c'est-à-dire leur apprendre la culture de l'évangile afin qu'ils aient une sécurité de vie. Ouais, on veut tous que nos enfants aient le meilleur, mais il y a des choses, il faut leur dire non. Il y a des choses, il faut dire non, ils ne vont pas être contents. Mais ça a toujours été dans toutes les générations. Il y a des conflits, ce n'est pas pour rien. Mais les enfants ne peuvent pas toujours comprendre, ne sont pas toujours à même de comprendre que si on les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire, pendant le temps qu'ils ont envie de faire, mais ça va nuire à leur santé mentale même, à leur vie spirituelle surtout, et puis même aussi physique. Alors il faut faire attention à nos enfants et puis les élever selon la culture de l'Évangile. Nous ne pouvons pas garder les façons de faire qu'avaient nos parents pour nous élever. Moi je me rappelle toujours ma mère, un jour elle m'avait dit, elle me regardait comment je faisais avec Mélodie, elle dit, moi, je n'en reviens pas, mais tu as appris tout ça où? Bon, on t'a pas élevé comme ça. C'est incroyable, mais tu as appris ça où? Comment tu... Ben voilà, dans la Bible, j'ai vu, j'ai suivi les conseils, et puis voilà, nous devons faire attention et rejeter si leur façon de faire n'était pas conforme à ce que l'Évangile veut. Nous devons renoncer à ces façons qu'avaient nos ancêtres de faire pour l'éducation des enfants. Il faut obéir à ce que Dieu dit, obéir donc à la culture de l'Évangile, ça c'est important. C'est important. Sinon, quel avenir on leur réserve? Nous sommes dans un monde mauvais, il ne faut pas l'oublier. Et Dieu veut nous conduire tous à travers de cette tempête qui nous entoure et qui va aller en s'amplifiant. Je vous le dis, ça va aller en s'amplifiant, afin que nous puissions tous arriver ensemble à revoir en même temps le Père Céleste que nous avons quitté il y a quelques années. Parce que notre esprit a quitté, n'est-ce pas, avant notre naissance, il a quitté la présence de Dieu pour venir habiter dans la condition mortelle, dans ce corps, mais un jour il retournera. Mais moi j'aimerais bien qu'on y retourne ensemble, pas vous, hein Simone, elle dit toujours, moi je me retiens, je veux mourir, je veux pas mourir, je veux partir dans l'enlèvement. Et on veut tous partir dans l'enlèvement, partir ensemble, que Dieu nous aide. Pour cela, pour y arriver, on a besoin des directions, des directives de l'Esprit de Dieu. Nous devons faire attention à ce qu'il dit à l'Église aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes hors âge. Écris à l'ange de ceci, écris à l'ange de cela, voici ce que l'Esprit dit à l'Église. Oui, mais maintenant, nous sommes hors âge. Qu'est-ce que l'ange a à dire à notre âge hors âge, à notre temps? Qu'est-ce que Dieu a à dire? Il parle encore, il dit encore. Et nous devons faire attention à ce que l'Esprit dit aujourd'hui à l'Église afin d'être certain d'avoir la compagnie du Saint-Esprit avec nous et non pas la compagnie de l'Esprit du monde. L'Esprit du monde, ce n'est pas d'aller manger dans un bon restaurant, de s'habiller à la mode ou d'aller écouter un concert rock'n'roll. Ce n'est pas ça l'Esprit du monde. L'Esprit du monde, c'est de penser comme le monde et c'est de ne pas penser comme Dieu, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Respecter les commandements de Dieu, respecter les ordonnances rétablies, prier, étudier la Bible, étudier ce que Dieu est en train de dire, être en ordre avant de prendre le pain et le vin, faire toutes ces choses-là. Vous voyez, mes frères et sœurs, les prophètes d'autrefois, ils n'étaient pas aimés pour les mêmes raisons qu'ils ne sont pas aimés aujourd'hui. Ce n'est pas compliqué. On n'est pas des gens supérieurs à nos ancêtres. On est toujours animés par ces problèmes tout bêtes, tout simples. Un prophète de Dieu, il dit au peuple ce que le peuple est au regard de Dieu. Et c'est jamais amusant. C'est rare qu'un prophète vienne et puis dise « Mon peuple, Dieu est content de vous ». C'est rare, c'est très rare. Si vous pouvez me trouver, allez, mettons trois prophètes qui disent quelque chose comme ça dans la Bible, allez, je vous paye un bon resto. Il n'y a pas, c'est rare, c'est très rare. Moi, je me rappelle, mon père aussi, il était comme ça. Mon père, il nous parlait, mais c'était jamais pour dire « Ah, c'est bien, je suis content, t'as bien ciré tes chaussures ». Non, non, c'était toujours pour dire « T'as raté un coin là, il y a quelque chose qui n'est pas propre encore dans ta chaussure. » Et puis il me disait, et quelqu'un qui a bien ciré le devant de ses chaussures, mais si derrière il y a encore un peu de terre ou de poussière, c'est que c'est une personne qui n'est pas bien dans son cœur. Il me disait des trucs comme ça, ça m'est resté. Il disait tout le temps des choses désagréables, mais il voulait qu'on soit parfait. Il avait sa manière. Mais Dieu, il est un peu comme ça aussi. Hein. C'est rare qu'il nous fasse des louanges. Et tout. Ça viendra le jour des louanges. Un jour, quand on sera devant lui, nous recevrons les louanges de sa part, et ça va être génial. Mais pour le moment, non, c'est plutôt, il nous tape derrière les oreilles. Et voilà, c'est pourquoi les prophètes sont pas aimés. C'est pas un rôle très amusant. Ça me fait penser un petit peu dans l'armée, quand j'étais là-bas en Suisse en train de faire mon armée, ils nous demandaient, est-ce que vous voulez devenir caporal? Je dis, surtout pas. Ah bon, pourquoi? Il me dit, bah, parce qu'on est pris entre le premier lieutenant, puis les troufions, et puis là on est toujours en train de prendre les baffes. C'est vraiment le mauvais coin d'être, c'est vraiment la mauvaise fonction, caporal, je veux pas. Ah ouais, mais pour être lieutenant, faut d'abord commencer par être caporal. Alors je dis, je veux rester un simple troufion, alors je veux pas. C'est trop pénible, vous comprenez? Les prophètes, ils rigolent pas, c'est pas rigolo. Un prophète de Dieu, il dit au peuple ce que le peuple est au regard de Dieu. Et si un enfant de Dieu entend et comprend qui il est, alors il est heureux, c'est-à-dire il est en marche. Il est en marche, il marche de progrès en progrès, un enfant de Dieu. Il se sait enfant de Dieu, il se sait aimé de Dieu, il comprend alors comment s'établit la relation avec son Dieu, et puis il comprend aussi comment s'établir et comment doit s'établir la relation avec les autres enfants de Dieu, c'est-à-dire en premier avec son mari, avec sa femme, ensuite avec ses enfants, ensuite avec les frères et sœurs, avec le berger de l'église, avec les gens de la commune, avec le pays, avec le monde. Vous voyez, on apprend, mais par Dieu. C'est une éducation qu'on doit trouver dans les Écritures. Notre relation avec Dieu, mes frères et sœurs, elle est éternelle. Et notre relation familiale, par exemple, notre relation fraternelle que nous avons là, elle a reçu l'éternité. Puisque nous avons reçu la vie éternelle, notre âme a reçu la vie éternelle, eh bien, nous allons encore passer l'éternité ensemble, et il faut apprendre ici-bas comment avoir cette relation. Elle sera jamais aussi parfaite, elle sera rendue parfaite quand nous serons avec notre Dieu, mais nous devons la perfectionner. Amen. Nous devons la perfectionner. Et ça, c'est pas automatique, cette relation. C'est pas automatique, ça se cultive. Et dans le mot cultive, il y a le mot culture, et c'est la culture de l'évangile. Et non, l'inspiration du monde, même s'il y a des bonnes choses dans le monde. Bien sûr qu'il y a des bonnes choses, hein, il y a Big Mac. Il y a des bonnes choses dans le monde, faut pas charrier. Il y a des bonnes choses. Mais c'est pas ça qui doit primer dans notre vie. Ce sont les lois de Dieu que nous devons garder, que nous devons protéger, et non celles du monde. Et certaines lois du monde, il faut le savoir, sont des lois pro-mort. Comme je vous disais vendredi, écoutez la prédication de vendredi, les lois, les ordonnances de Dieu, elles délivrent du péché, elles délivrent de la mort, elles délivrent même les morts. 1 Pierre 4, 6, réfléchissez à tout ça. Il n'est pas facile de suivre la voie du Seigneur. Il nous a avertis, il nous a dit que le monde nous haïra, parce que nous agissons différemment. Jean 15, 19. Je vais vous lire ça. Jean 15, 19. Alors, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Il nous hait. C'est bizarre. Pourtant, on est gentil, on veut faire du bien, on veut faire de l'humanitaire, on est gentil, puis ils nous détestent. Ben voilà, c'est ce qu'il dit. Ils m'ont haï sans cause, ils vous haïront aussi sans cause. Ils diront toutes sortes de choses fausses sur vous, ils vous accuseront de tous les trucs. Et voilà. Bon, c'est quand même terrible. Et ce que nous faisons lui semble faux. Ce que nous faisons, nous disons, lui semble stupide ou inutile, voire même nuisible. Mais nous pouvons être tranquilles. Si nous sommes en communion avec Dieu, si nous écoutons Dieu, la Bible nous affirme, vous serez affermis. Et si nous écoutons ses prophètes, nous réussirons. Vous vous rappelez de Chronique 20-20 hein? De Chronique 20-20. Si nous agissons selon la parole de Dieu, qui sort pour notre temps, pour notre époque, nous sommes assurés de recevoir sa bénédiction. Assurés. Mais sa bénédiction pour nous aider. Pour nous aider au milieu de la tempête. Au milieu de la tempête qui va aller en s'intensifiant. Ce n'est pas que Dieu va nous bénir et que nous allons être épargnés. Pas du tout. Parce que si c'est ça, alors ça veut dire que nos frères qui sont persécutés dans les pays totalitaires n'ont pas la vraie foi. Vous voyez, mes frères et sœurs, être béni de Dieu, ça ne veut pas dire être tout le temps protégé et gardé. Non. La plupart des hommes de Dieu sont morts de mort violente, hein, dans la Bible, mais dans l'histoire aussi. Et ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas des problèmes comme ça, mais nous serons protégés dans le sens que nous ne perdrons pas la foi. Nous serons toujours avec cette paix dans le cœur, malgré le fait que ça va aller de pire en pire. Dieu sera avec nous, à notre gauche, à notre droite, au-dessus, au-dessous, même en nous. Ses anges seront toujours autour de nous pour nous soutenir, pour nous inspirer, pour nous protéger et de temps en temps pour nous délivrer si on est mis en prison. Vous avez vu, ils étaient mis en prison, mais ils étaient délivrés. Pas toujours, hein. Des fois, ils n'étaient pas délivrés. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment d'être délivré. Il fallait encore qu'ils restent en prison. L'apôtre Paul dit, oui, mais alors pourquoi Pierre, tu l'as délivré, puis pourquoi moi tu... Mais parce que tu n'es pas le même bonhomme, puis ce n'est pas la même histoire, puis c'est un autre moment. Vous voyez? Et c'est la même chose avec nous. Il ne faut pas vous épouvanter si vous êtes secoué comme ça par les difficultés. Non. Mais il faut que vous gardiez la paix en vous-même par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Alors nous pourrons retourner à la maison en étant fiers d'avoir été du bon côté. Moi, je me dis toujours, c'est facile de critiquer, hein, pendant la guerre, tout ça, ceux qui étaient du mauvais côté. Enfin, maintenant, on dit le mauvais côté, mais à l'époque, il devait y avoir des gens sincères qui pensaient sincèrement être dans le bon côté, puis ils sont trompés de côté. C'est terrible. Bon, il y avait des gens malhonnêtes, mais il y avait des gens sincères, puis ils sont trompés de côté. Ouh, ça fait peur quand on pense ça. Et nous aussi, ça peut nous arriver. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, mais c'est peut-être nous qui sommes dans l'erreur, c'est peut-être les catholiques qui ont raison. Non, c'est vraiment trop gros. Mais bon, il faut toujours être inspiré par le Saint-Esprit. Il faut toujours être sûr qu'on est inspiré par le Saint-Esprit. Et je vous ai donné le test infaillible, hein, je vous l'ai donné vendredi. Comment faire pour savoir si on est inspiré vraiment par le Saint-Esprit? Et si nous le sommes, alors nous pourrons nous présenter devant Dieu, puis alors là, recevoir de lui la louange. On va rougir, on va être gêné. Quand il va nous dire, entre, bon et fidèle serviteur. Waouh, ça va faire drôle. Bon, on aime bien quand quelqu'un nous dit, quand on travaille bien pour Dieu, quand on est quelqu'un de bien, tout. Mais quand Dieu va nous le dire, non, ça, on n'arrive même pas à imaginer. C'est pour ça que je comprends pourquoi la Bible dit, mais quand il nous donnera des couronnes, on dit, non, Seigneur, on les lui rendra. Ouais, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est tellement juste, c'est tellement dans la façon comment on est quand on est chrétien. Frères et sœurs, la terre en ce moment souffre. C'est vrai que la terre, c'est une entité. On a appris ça, surtout avec Enoch. En lisant Enoch, on apprend que les étoiles sont des entités. C'est vivant. C'est pas simplement des boules qui tournent comme ça. Eh bien, la terre, elle souffre. Et les temps qui vont venir vont être très durs. Et même ici en France, il faut pas penser que c'est seulement là-bas, au Mali, ou je sais pas. Non, ça va venir en France. Ça va être très dur pour nous aussi. Et il est temps pour chacun de nous de s'occuper des affaires du Père Céleste avec sérieux. Avec sérieux. Votez pour Jésus-Christ. Dans votre vie, il faut que vous l'élisiez le roi, le maître, celui qui a toujours raison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Merci de nous aider à être de bons témoins sur cette terre, à ne pas contester, à être de ceux qui disent, eh bien Seigneur, éclaire-moi, je veux comprendre, je veux savoir. Merci Seigneur pour ce que tu as encore en réserve pour nous. Nous sommes ouverts, prêts Seigneur Jésus, si tu as encore des choses à nous dire pour que nous puissions nous perfectionner, marcher mieux avec toi, être encore plus à ton service, faisant des choses que tu veux que nous fassions parce que tu ne trouves personne pour les faire. Aide-nous Seigneur Jésus à être ces hommes, ces femmes qui t'obéissent et qui cherchent toujours à faire selon ta parole et selon ton esprit. Veuille, Seigneur Jésus, pardonner nos fautes et je sais que tu le fais et je sais que tu nous aides à aller de l'avant. Merci, mon Dieu. Merci de bénir ce pays de France qui est en train de prendre de graves décisions. Bénis ces hommes, ces femmes qui Certains sont honnêtes, sont sincères. Certains s'illusionnent, certains sont malhonnêtes. Nous n'avons pas à juger. Simplement, ce que nous voulons, c'est voir où se dirige la vie. Et nous voulons être conduits par toi. Aide-nous, Seigneur, à être conduits par toi au milieu des tempêtes à venir. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.